Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Contesté à l'intérieur, isolé à l'extérieur, Emmanuel Macron aborde 2019 dans une situation délicate. Celui qui se voulait le grand transformateur au niveau national et le nouveau leader de l'Europe semble n'avoir plus de marge de manœuvre, ou en tout cas une marge de manœuvre bien réduite, à la fois pour poursuivre les réformes dont le pays a besoin, mais aussi pour relancer une Union européenne menacée par des crises à répétition et des populismes qui ne cessent de s'étendre un peu partout sur le continent. Alors Emmanuel Macron peut-il se relancer après une année 2018 extrêmement difficile politiquement et comment ? Bonjour Bruno Cotteresse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au CNRS et membre du Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Lundi, le chef de l'État a formulé ses traditionnels vœux du nouvel an. Rappelant que l'année 2018 ne nous avait pas épargnés en émotions intenses, rappelant aussi le chemin parcouru en matière de transformation et de réforme, se montrant déterminé à les poursuivre. Sur la forme d'abord, Emmanuel Macron, debout, au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs on l'a senti assez offensif. Comment est-ce que vous analysez ses vœux ? Est-ce que vous diriez qu'il a su rebondir ou qu'au contraire, il n'a pas su convaincre ?
Alors il était effectivement debout. Très métaphoriquement, je dirais, ça voulait montrer qu'Emmanuel Macron n'était pas à terre, que les événements forts que nous avons vécus en France au cours des dernières semaines, des derniers mois, n'avaient pas entamé sa détermination. Il a voulu symboliser ça en étant effectivement debout, en montrant qu'il était toujours vers l'avant, en dynamique, toujours en marche. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a essayé un exercice extrêmement délicat de montrer qu'il restait dans sa cohérence et la cohérence de son projet en annonçant que les principales réformes à l'agenda de 2019 était toujours là. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites en particulier. Je trouve qu'il a d'ailleurs pas tellement parlé de la réforme de l'État au cours de ses vœux. Et puis, exercice difficile parce qu'il s'agissait aussi de montrer qu'il tenait compte de ce qui s'était passé. Donc moi, j'ai trouvé un Emmanuel Macron qui, sur la forme, avait trouvé plutôt une bonne tonalité. Il était dans un exercice de communication qui est une figure imposée de la vie politique française, les vœux du 31. Sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il ait pris toute la mesure de la grave crise que nous venons de traverser et que les annonces qu'il a faites, c'est-à-dire maintenir le cap de ces réformes, un grand débat, mais qui est un grand débat qui va être extrêmement limité dans le temps, dont nous ne savons pas très très bien aussi les modalités opératoires, qui va analyser comment font être collectées les paroles des Français.
Il a dit qu'il allait écrire aux Français.
Voilà,
pour
donc on attend effectivement le cahier des charges de ce débat. Ça va être tout à fait essentiel que de connaître le cahier des charges de ce débat. Donc sur le fond, je ne suis pas sûr que les paroles du président aient tout à fait rassuré ou calmé l'angoisse ou l'inquiétude qui s'est manifestée en France.
Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de ce grand débat national qui va s'organiser dans les semaines, dans les mois qui viennent, est-ce que effectivement il est de nature, vous semble-t-il, Bruno Cotteresse, à résoudre cette crise des gilets jaunes ?
C'est sur le fond une très bonne idée que d'avoir un débat national et au fond beaucoup de spécialistes des questions de démocratie ont clairement montré que aujourd'hui on avait une double demande. Il y a toujours la demande qui est celle d'une démocratie représentative qui doit tout simplement obtenir des résultats. Les élus sont là effectivement pour voter, pour faire avancer des lois, et en même temps une demande très importante qui se manifeste dans de très nombreuses démocraties d'une démocratie plus participative, plus du bas vers le haut. Oui. Donc sur le fond, c'est plutôt une très bonne chose que notre 5e République, qui donne tous les jours des signes de difficulté, de besoin de se renouveler, c'est une très bonne chose.
Mais qu'est-ce que vous avez compris dans ces vœux ? Est-ce qu'il vous semble effectivement disposé à introduire des modifications dans notre système démocratique ? Je vais citer une phrase qui, alors il ne l'a pas dit directement, mais qui semble quand même faire écho à ce fameux référendum d'initiative citoyenne dont on a beaucoup parlé. Nous devons, a-t-il dit, grâce au débat qui a commencé, redonner toute sa vitalité à notre démocratie. J'aurai des décisions à prendre, car de toute évidence, nos institutions doivent continuer à évoluer. Alors, il ne l'a pas évoqué directement, mais on sent bien que c'est un peu ça dont il est question. Est-ce que vous l'avez senti disposé, effectivement, à accepter des choses sur ce point ? Et est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait introduire des modifications ?
Pour le moment, je dirais qu'on n'a aucun signe clair de l'exécutif montrant qu'il va valider cette idée du référendum d'initiative citoyenne. Dans le même temps, on ne voit pas très bien comment il pourrait éviter le sujet. Le sujet s'est vraiment imposé. Donc, je ne doute pas que dans les décisions que le président de la République va être amené à prendre et aux propositions qu'il va être amené à formuler, il devrait devrait y avoir quelque chose qui s'inspire. Alors, est-ce que ça va être le référendum d'initiative citoyenne? Est-ce que ça va être dans la conduite des politiques publiques en France d'introduire davantage que ça n'est le cas aujourd'hui des éléments de démocratie participative délibérative, de prise de parole? On a vu que la crise des Gilets jaunes, c'était pas seulement une crise de nature sociale, mais c'était aussi une crise de l'expression publique en France. Donc, je ne doute pas que le président de la République devra forcément faire des propositions sur ce thème-là. S'il ne le faisait pas, il prendrait un risque politique considérable de décevoir l'attente très élevée qui existe aujourd'hui dans plusieurs segments de l'électorat sur cette question.
Bruno Cotrès, il y a énormément de chantiers qui sont prévus pour l'année 2019. J'en ai évoqué certains, les retraites, l'assurance chômage, réforme institutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a encore des marges de manœuvre pour les engager? Il l'a dit très clairement, hein, il a cette ambition. Mais est-ce qu'il a vraiment encore cette marge de manœuvre?
Le pouvoir a toujours des marges de manœuvre dès lors qu'il a l'initiative d'impulser les choses. Donc il ne faut jamais, je dirais, tirer un trait définitif sur les marges ou l'absence de marge de manœuvre du pouvoir. La politique, c'est justement l'art de bouger, de faire bouger les lignes, y compris vis-à-vis de soi-même et de ses propres ambitions, de ses propres projets. Mais c'est clair qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a un boulet qu'il traîne, à la fois le niveau de sa popularité qui est extrêmement bas, mais surtout la dégradation de son image. C'est une dégradation de son image qui est arrivée assez vite, finalement, dans l'exercice de son mandat, mais qui, au cours des dernières semaines, s'est non seulement accélérée, mais a pris en intensité. Emmanuel Macron a donné le sentiment, d'abord et avant tout, qu'il n'avait pas su gérer la crise. Et ça, la gestion de crise majeure dans une démocratie, c'est quand même un symbole très important de la puissance du pouvoir exécutif. Emmanuel Macron a vraiment, de ce point de vue-là, son image a été considérablement dégradée. Et quand on regarde les contenus des enquêtes d'opinion, ce qu'elles nous disent sur l'image d'Emmanuel Macron, c'est pas seulement le président des riches, c'est pas seulement aujourd'hui celui qui est trop vertical, celui qui est trop brutal, mais c'est aussi celui qui n'arrive pas à comprendre ce que c'est la France dans sa complexité, dans sa diversité. Emmanuel Macron, depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, je dirais même, a tout tenté pour renouer le lien avec les Français, et nous l'avons vu dans des situations de communication aussi nombreuses que diversifiées. Il a vraiment tout tenté, la semaine mémorielle, le déplacement aux Antilles où il voulait inspirer une proximité bon enfant avec les Français. Il a essayé le vertical, on se rappelle de son intervention dans la pénombre à l'Élysée. Donc il a vraiment tout essayé, pour le moment rien ne fonctionne.
On va revenir bien sûr sur cette image et peut-être ce besoin de se reconstruire, effectivement, une image. Mais je parlais des marges de manœuvre. Il y a aussi une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. C'est une conjoncture économique qui n'est pas bonne. Les indicateurs et les prévisions ne sont pas très encourageantes. On a une croissance de 1,5% pour 2018, c'est-à-dire 0,2 points de moins que ce qui était prévu. A priori, pour 2019, les choses ne devraient pas aller dans le bon sens. Donc, dans ces conditions, ça peut devenir compliqué de faire de nouvelles réformes tout en réduisant le déficit, tout en organisant une meilleure redistribution. On a une conjoncture. On disait, à l'époque où il est arrivé au pouvoir, les planètes sont alignées. Elles se sont considérablement désalignées.
Considérablement désalignées. Et là, on est au cœur du problème pour Emmanuel Macron. Au fond, Emmanuel Macron a vendu aux Français l'idée d'un nouvel horizon. Le titre du livre programme d'Emmanuel Macron n'est-il pas révolution? Donc, lorsqu'on annonce aux Français la révolution, il faut que ça se traduise, si je puis dire, en espèces sonnantes et trébuchantes du point de vue économique. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, qui a fondé une grande partie de sa crédibilité présidentielle au cours de la campagne électorale, de sa crédibilité européenne et internationale sur la question de la France et de retour, l'investissement va revenir vers la France, joue un match très important sur la question de l'économie. Si la situation du chômage et des grands paramètres macroéconomiques ne s'améliore pas de manière spectaculaire, c'est-à-dire d'une manière telle que les Français puissent en sentir les effets dans leur vie quotidienne, ou qu'au minimum la France puisse afficher au plan international des résultats qui montrent effectivement que France is back. Si Emmanuel Macron est en échec sur ce point au cours de l'année 2019, ça deviendra très très compliqué pour lui.
Mais quand même, Bruno Cotrès, si on se fait aussi l'avocat d'Emmanuel Macron, et je vais le faire immédiatement, il y a eu des avancées, parce qu'il peut s'appuyer aussi sur un bilan qui est peut-être pas si mauvais. La loi travail, la réforme de la SNCF, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il se trouve que les gouvernements précédents n'étaient pas parvenus à les engager. Lui, il l'a fait. Il y a eu d'autres choses qu'il a rappelées d'ailleurs dans ses vœux. La réforme de l'apprentissage et de l'alternance, l'amélioration de l'organisation des hôpitaux, l'aide aux citoyens handicapés pour qu'ils trouvent une place dans la société. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait. Mais le bilan n'est pas aussi noir que ce qu'on dit depuis quelques semaines, depuis quelques mois, à la faveur effectivement, ou à la défaveur de cette crise des Gilets jaunes. Quand on regarde un peu sur la longue durée, est-ce que le bilan de 2018 est si mauvais politiquement d'Emmanuel Macron ?
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un problème qui ne concerne pas qu'Emmanuel Macron. C'est un problème qui a concerné tous ses prédécesseurs. Si vous preniez le bilan de François Hollande au cours de sa première année, on verrait qu'un nombre important de propositions de son programme ont été mises en œuvre également. Donc Emmanuel Macron, il a un peu cette difficulté. Il y a effectivement des éléments importants qui ont été mis en œuvre. Prenons dans le cadre aussi de la réforme politique, institutionnelle, la loi qui a tout de suite été votée pendant l'été 2017, la loi de restauration de la confiance dans la politique, c'était évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Donc il y a effectivement...
Oui, sauf que, pardon, mais dans son objectif, elle a échoué.
Pour le moment.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a des éléments importants de son programme qui ont été mis en œuvre. Il a montré une capacité de mise en œuvre extrêmement dynamique et extrêmement importante tout de suite. Mais pour le moment, les Français n'évaluent pas le bilan d'Emmanuel Macron à cette aune-là. Le bilan d'Emmanuel Macron est pour le moment évalué surtout sur l'aspect d'un très grand écart entre la narration de départ, je vais changer vos vies, je vais révolutionner vos vies, je vais vous donner de nouvelles marges de manœuvre, la fameuse émancipation d'Emmanuel Macron, et les Français aujourd'hui ne voient pas concrètement leur vie s'émanciper, c'est-à-dire se libérer de toutes les contraintes socio-économiques.
Quand je dis qu'elle a échoué, elle a échoué au sens où elle n'est pas parvenue à redresser cette confiance entre le peuple et les élites, et Emmanuel Macron lui-même l'a concédé.
Et nous en aurons quelques indications très 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 rapidement, puisque le CEVIPOF va publier au cours du mois de janvier son enquête annuelle sur la confiance des Français dans la politique, et je ne m'attends pas à des résultats extrêmement brillants.
Alors, justement, Bruno Cotterêts, Emmanuel Macron, vous le disiez tout à l'heure, a toujours cette image de président des riches, cette image aussi d'un homme méprisant et arrogant. Selon un sondage Harris Interactive du mois de décembre, 72% des personnes interrogées le trouvaient arrogant. Et vous disiez cette semaine dans Les Échos que l'enjeu pour Emmanuel Macron, ça va être de se réinventer un personnage. Alors, comment est-ce qu'il peut s'y prendre, et est-ce que vous pensez qu'il peut y parvenir ?
Il y a une difficulté, c'est effectivement d'abord c'est l'enjeu fondamental pour Emmanuel Macron dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Mais il y a une difficulté. Emmanuel Macron a très vite et trop tôt, sans aucun doute, figé son image aux yeux des Français par la production abondante d'images, de storytelling au début de son mandat. Il a voulu très vite figer l'image d'un homme qui allait casser les codes de la politique française, un homme jeune, dynamique, tout à son projet, à son ambition de faire que la France rayonne à nouveau. Mais il ne s'est sans doute pas rendu compte qu'en faisant ça, il avait trop vite et trop tôt figé son image. Et lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui, on voit que quel que soit ce qu'Emmanuel Macron fasse, on revient toujours à cette donnée de base. Il est le président arrogant, il est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Donc il y a un enjeu qui est fondamental pour Emmanuel Macron.
Comment
changer ça ? Je pense que pour changer ça, il faut qu'Emmanuel Macron restaure l'image, qu'il a compris le message des Français, un message d'humilité. Il a utilisé le mot humilité, il a utilisé le mot humble plusieurs fois au cours de sa communication.
Il y a la communication, il y a les mots et il y a les actes.
Mais il y a les actes, voilà. Ça ne sert à rien, la communication, s'il n'y a pas d'actes qui viennent.
Quel serait l'acte qui lui permettrait de justement réinventer cette image ?
Sans qu'on puisse penser à quelque chose de précis, mais je pense que la politique, ce sont des symboles. Il faudrait un symbole politique... économique, dans le domaine économique, qui montre qu'Emmanuel Macron est du côté de ceux qui ont des difficultés économiques. On se rappelle que lorsqu'un François Mitterrand fait la cinquième semaine de congés payés, quel que soit ce qu'on pense des conditions économiques dans lesquelles il l'a fait, ça reste un pilier du legs de François Mitterrand à la société française, cette cinquième. Donc pour qu'Emmanuel Macron restaure sa crédibilité en termes de proximité avec les gens, la barre est située pour moi à ce niveau-là aujourd'hui. C'est plus seulement 100 euros de plus, c'est déjà très bien. Sur les salaires les plus faibles, c'est déjà considérable. Mais la barre est aujourd'hui très élevée, tellement la situation d'impopularité d'Emmanuel Macron est importante.
Vous parliez de symbole. Il y a un symbole, c'est l'ISF. C'est ce qui fait que, en tout cas en très grande partie, que la majorité des Français le qualifie de président des riches. Alors, je ne vais pas juger, Emmanuel Macron a dit la raison pour laquelle il ne voulait pas revenir sur l'ISF. Et par ailleurs, peut-être même que ses arguments sont, du point de vue économique, tout à fait justifié, sauf que, en attendant, ça crée une certaine image. Est-ce que précisément, ça ne pourrait pas être le symbole qui lui permettrait de se dégager de cette image ?
Sans aucun doute, et on voit que dans la communication du gouvernement et des membres du gouvernement, on est un peu flottant sur cette question de l'ISF. Certains membres du gouvernement, ou à certains moments, semblent indiquer qu'on ne remettra pas en cause parce qu'on ne peut pas modifier les paramètres économiques vis-à-vis des investisseurs tous les quatre matins. Mais quand on regarde avec beaucoup d'attention, on voit que depuis plusieurs semaines, de petits signes commencent à aller dans la direction de « mais après tout, si on évaluait l'efficacité économique de cet ISF, est-ce qu'à un moment donné, ça ne serait pas très macronien que de dire que si on évalue une politique publique et qu'elle n'a pas les résultats escomptés, encore faut-il la retoucher ?» Donc on voit que du côté du gouvernement, on ménage régulièrement une espèce de toute petite porte de sortie, une trappe de secours qui est peut-être destinée un jour à dire ben finalement si ça ne donne pas le résultat, est-ce qu'il ne faut pas retoucher à cette remise en cause, à cette question de l'ISF.
Donc pour vous, ce n'est pas forcément exclu, il y a quelques signaux qui pourraient laisser
entendre
que ça pourrait
bouger. Non, pour moi, ça n'est pas forcément exclu.
Bruno Cotresse, en 2018, Emmanuel Macron a été confronté à plusieurs défections d'importance. Je pense à au ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, je pense évidemment au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'un et l'autre, d'ailleurs, à leur manière, ont procédé à une forme de critique de l'action gouvernementale. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Emmanuel Macron était devenu un pôle attractif autour duquel des forces venaient s'agréger et provoquant par là même l'effondrement progressif, l'étiolement en tout cas des partis d'opposition. Il est en train de devenir un pôle répulsif. Il a de plus en plus de mal finalement à s'entourer. On a vu le temps qu'il a mis pour justement faire son remaniement. Et en même temps macronien, l'opposition ne semble pas tellement profiter justement de ce glissement. Comment le comprendre ?
C'est vrai que c'est une des intrigues politiques les plus importantes aujourd'hui en France. L'élection de 2017 est une élection qui a non seulement eu comme effet la remise en cause, la déconstruction et la reconstruction progressive des oppositions, mais elle en était aussi quelque part la cause. On voit qu'effectivement, pour le moment, les oppositions n'arrivent pas bien à tirer profit des difficultés d'Emmanuel Macron. Je crois que ce n'est que temporaire. Je n'imagine pas que lorsqu'on va se rapprocher de l'élection présidentielle de 2022, la situation ne va pas progressivement se remettre en ordre de bataille. On voit que si on regarde du côté des Républicains, par exemple, c'est vrai que les Républicains, lorsqu'on regarde leur intention de vote pour les élections européennes, elles sont pas extraordinaires. Elles sont, selon les instituts, des fois à 8%, des fois à 12%, à 15%, enfin. Mais on voit qu'en même temps, il y a un socle qui est toujours assez solide d'un petit matelas d'électeurs républicains qui souhaitent sans aucun doute sa revanche en 2022.
En revanche, il y a quand même...
Par contre, on voit qu'à gauche, la situation est extrêmement chaotique. L'élection de 2017 n'a pas tranché d'une certaine manière la grande question de la gauche. La grande question de la gauche aujourd'hui est de savoir si la gauche, dans sa diversité... réinvente une histoire collective du type, entre guillemets, union de la gauche moderne. Où est-ce que l'histoire de la gauche aujourd'hui, c'est que les sociodémocrates attendent au fond qu'Emmanuel Macron ait besoin d'une aile gauche pour sa campagne de 2022. Donc c'est une grande question qui est une question stratégique, c'est pas seulement une question de tactique politique, c'est pas une question d'ambition personnelle, etc. C'est une vraie question politique forte qui est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que veut dire être de gauche, qu'est-ce que c'est qu'être socialiste aujourd'hui. Tant que la situation n'a pas fondamentalement évolué pour le Parti Socialiste, son horizon politique, son leadership, on est un peu bloqué. Mais je ne doute pas que progressivement, les forces de gauche vont devoir expliquer aux Français où est la direction de la gauche aujourd'hui.
Alors, il y a la perspective 2022, mais il y a aussi la perspective des élections européennes, et ça tombe bien, on en parlera tout à l'heure. Bruno Cotresse, Antoine Vaucher nous retrouvera. Et pour cette deuxième partie, nous allons nous projeter vers les élections européennes qui se tiendront en mai prochain. Lors des vœux du président dont on parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron a redit combien il croyait en l'Europe et combien la France avait un rôle à jouer dans la relance européenne, sauf que la crise nationale pourrait saper les ambitions présidentielles au niveau européen. Nous rejoint Antoine Vaucher pour cette deuxième partie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, l'Université Paris 1, EHESS. Durant la campagne, Antoine Vaucher, Emmanuel Macron était probablement celui qui s'était affiché comme le plus pro-européen. On se souvient notamment de sa longue marche le soir de sa victoire dans la cour du Louvre qui s'était fait au son de l'hymne à la joie. Et puis par la suite, il a eu des discours très forts pour porter ce renouveau européen. Il y a eu le discours de la Sorbonne en septembre 2017. Il y a eu le discours aussi à Athènes avec ce magnifique décor devant le Parthénon. Au lendemain de son élection, le Time Magazine avait fait sa une avec le visage de Macron en le présentant comme le futur leader de l'Europe. Sauf qu'il y avait un petit astérix précisant à condition qu'il parvienne à diriger la France. Compte tenu, Antoine Vaucher, des difficultés au niveau national qu'on a évoquées tout à l'heure avec Bruno Cotterêts, est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore porter le renouveau européen?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour La République En Marche, la question européenne est une question qui, finalement, a donné à ce parti naissant, qui est finalement quand même assez composite, y compris dans les origines politiques de ses membres, lui a donné une consistance idéologique. C'est pour un parti qui, finalement, n'a pas une ossature idéologique extrêmement forte, un des éléments qui lui donne, finalement, un élément d'unité. Et c'est sans doute pour ça que Emmanuel Macron, à la fois dans sa campagne présidentielle, mais depuis son élection, a fait du discours européen finalement un élément central de sa parole politique et a occupé le terrain sémantique, on pourrait dire, sur la question européenne, comme finalement aucun président ne l'avait fait jusqu'à présent, enfin dans les dernières mandatures. Ce qui est intéressant cependant, c'est que effectivement Emmanuel Macron, se lançant en quelque sorte à l'assaut de l'Europe, a remporté finalement assez peu de victoires européennes. Et maintenant, pour revenir à votre question française, eh bien, évidemment, il revient au moment où les élections européennes s'approchent, finalement avec des résultats européens relativement modestes. Y compris dans la relation avec l'Allemagne, y compris par rapport à ce qu'il avait attendu en quelque sorte justement de ce pari européen. Et c'est sans doute là une des difficultés qu'il va rencontrer, parce qu'à la fois c'est central dans, encore une fois, la consistance idéologique de ce parti, et en même temps finalement les résultats aujourd'hui en tout cas restent assez modestes.
On entendait dans le billet politique de Frédéric Seyss à l'instant comment la crise des Gilets jaunes avait été vue depuis la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il s'était construit l'image d'un réformateur, d'un défenseur de l'environnement, d'un garant de la rigueur budgétaire. Et cette crise des Gilets jaunes, elle montre un tout autre visage du président. On a un responsable qui a reculé sur la taxe carbone. On a un responsable politique qui a lâché près de 10 milliards de mesures sous la pression de la rue, provoquant un dérapage budgétaire et donc le creusement du déficit sur lequel il était très attendu. Et en particulier par les Allemands, sur lesquels on compte évidemment pour cette relance européenne. De quel crédit Emmanuel Macron jouit-il encore auprès de ses partenaires, et peut-être en particulier de ses partenaires allemands? Antoine Vaucher.
Oui. Évidemment, c'est vrai que un des paris d'Emmanuel Macron, je pense d'une certaine manière dans la continuité de la présidence de François Hollande, c'était de considérer que être un bon élève du point de vue budgétaire, faire ses devoirs, comme il l'avait, je pense, dit à l'époque de la présidentielle, c'était la condition de l'influence politique de la France, d'une influence politique renouvelée dans sa relation avec le partenaire allemand. Alors, il est vrai que, à la fois, bon, ça n'a pas complètement été le cas, puisque finalement, sur des questions comme le budget de la zone euro, comme la création d'un ministre des Finances, qui étaient un peu les éléments un peu clés de la réforme européenne de Macron, bah, il n'a finalement obtenu que des demi-victoires. Et effectivement, maintenant, il y a une sorte d'effet boomerang dans le fait que au moment de répondre à la crise sociale qui s'est fait jour au mois de novembre décembre, eh bien la France rencontre à nouveau les contraintes européennes, dans la mesure où pour distribuer du pouvoir d'achat, pour avoir une politique économique ambitieuse, eh bien effectivement on doit immédiatement enfreindre, ou en tout cas mettre en difficulté, les règles bruxelloises.
Et Bruno Cotterêts, comment est-ce qu'on voit ça justement du côté allemand? Est-ce qu'on est très critique ou est-ce qu'on a un peu d'indulgence? Antoine Vaucher le rappelait, effectivement, on se souvient de la posture de François Hollande qui avait expliqué qu'il allait forcer Angela Merkel à renégocier les traités, ce qu'il n'a pas pu faire. Macron, lui, effectivement, a choisi d'être, alors c'est vous qui l'avez dit, un bon élève, mais en tout cas, cette attitude consistant à d'abord convaincre les Allemands de son volontarisme, de son sérieux budgétaire, et puis ensuite de demander des efforts à Berlin. Comment est-ce qu'on voit les choses depuis Berlin? Est-ce qu'on se dit, c'est décevant compte tenu de ce qu'on attendait d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on se dit, il pouvait pas faire autrement, il y a une urgence sociale qui est là, qui est réelle, et puis on rappelle que nous aussi, en Allemagne, quand on a fait la réforme du marché du travail, les réformes Hartz, eh bien, nous aussi, nous avions dépassé les 3%. Donc, après tout, laissons-nous une chance. Bruno Cotterêts.
C'est sûr que, du point de vue de l'Allemagne, il y a une ambiguïté. On s'est habitué en Allemagne à ce que les présidents français soient très bons dans la production de discours et de mots à propos de l'Europe. Et tous les derniers présidents français ont toujours voulu incarner une position forte de la France au Conseil européen. Toujours cette image très franco-française du moteur franco-allemand de l'Europe. Et quoi que l'on pense des difficultés de tenir cette position, c'est vrai qu'au cœur de la construction européenne, il y a quand même cette question. Donc du côté de l'Allemagne, on est sans aucun doute toujours très intéressé si un président français souhaite être un acteur majeur de l'intégration européenne et de la poursuite de l'intégration européenne. Mais dans le même temps, on s'est habitué aussi du côté de l'Allemagne à voir la France repousser ses échéances et expliquer que les réformes viendront un jour, que les 3% seront atteints un jour. Alors avec Emmanuel Macron, on touche enfin du côté allemand une France qui revient dans les clous budgétaires. Et à peine on croit dans cette histoire qu'on voit tout de suite que ça devient beaucoup plus compliqué. Je pense surtout que du côté allemand, il y a aussi une situation politique qui est devenue elle-même assez complexe avec la fin de la carrière politique d'Angela Merkel. Donc une double incertitude s'est ouverte du côté allemand, ce qui concerne le rapport franco-allemand. Le rapport franco-allemand avait aussi connu une période de grandes difficultés. Donc on est aussi très attentif du côté allemand à voir cette relation franco-allemande s'améliorer. Il y avait beaucoup d'espoir. Rappelons que Bruno Le Maire lui-même, arrivant à la tête de Bercy, avait suscité beaucoup d'espoir. Sa germanophilie, le fait qu'il soit qu'il parle couramment allemand, le fait qu'il était toujours très intéressé par la relation franco-allemande avait aussi été perçu comme un élément essentiel.
Antoine Vaucher, Bruno Cotterêts nous dit les Allemands sont très intéressés par notre désir de relance européenne, notre désir d'intégration. Est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que vraiment les Allemands ont répondu à cette ambition de relance européenne? Alors évidemment, il y a ce contexte politique interne qui explique peut-être une forme d'inertie de la part de l'Allemagne, avec une Angela Merkel qui a dû faire face à le plus mauvais score de la CDU depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec ces mois d'atermoiement pour mettre en place enfin une coalition gouvernementale. Mais est-ce qu'au fond, l'isolement de Macron en Europe, il n'est pas aussi le résultat d'une forme d'inertie allemande, je le disais, et une chancelière qui aurait un peu abandonné le président français sur le chemin de la relance?
Oui et non, c'est-à-dire que je pense que chacun des pays, effectivement, a une équation, je dirais, d'intérêts économiques, d'intérêts nationaux et d'engagement européen qu'il combine un peu à sa façon. Je veux dire, aucun des pays n'est seulement pan-européen ou pro-européen ou seulement centré sur ses intérêts nationaux. Moi, ce qui me frappe, c'est que si on regarde les choses depuis 5 ans, enfin, puisqu'on parle de mandature du Parlement européen, d'élections européennes, malgré tout, l'engagement européen de l'Allemagne a été très fort. Je veux dire, d'une certaine manière, il y a eu toute une série de crises, et c'est de ça peut-être aussi que devront parler les élections européennes, toute une série de crises politiques majeures du continent européen et de l'Union européenne. Je pense évidemment à la crise de la zone euro, je pense évidemment à la question de l'accueil des migrants, je pense évidemment à la question de l'Ukraine, c'est-à-dire du rapport indirectement avec la Russie. Sur chacune de ces questions, la France évidemment, mais aussi l'Allemagne, ont été extrêmement présents, et l'Allemagne en particulier, j'aurais tendance à dire, sur la question de l'immigration, la solution politique, quoi qu'on en pense, a été trouvée d'abord à Berlin avant d'avoir été pensée à Paris.
D'accord, effectivement, les Allemands n'ont pas rien fait pour l'Europe, mais si l'on regarde ce qu'ils ont fait par rapport à l'ambition d'Emmanuel Macron, la création d'un budget de la zone euro avec un ministre des Finances, un Parlement pour contrôler ce processus de décision, le lancement de projets industriels dans le domaine de la défense, le lancement d'une grande consultation en forme de débat délibératif pour tous les États membres. Si on fait un peu le bilan de ce projet de la relance macronienne, du côté de l'Allemagne, on ne peut pas dire qu'on a été très enthousiaste pour l'accompagner quand même. Si on fait un peu un bilan des choses, Antoine Vaucher.
Oui, non,
et puis je vous donnerai la parole.
Peut-être faut-il aussi se poser la question de ce rapport spécifique peut-être que l'on a peut-être dans les partis politiques et les gouvernements français au rôle de la France, c'est-à-dire à l'idée que c'est parce qu'il y a un nouveau président de la République que la donne européenne va changer. Il me semble que c'est peut-être une façon de penser la réforme européenne qui est extrêmement présidentialiste. Peut-être que l'on pourrait réfléchir.
Mais comment on peut la penser autrement alors?
Eh bien, on peut la penser par exemple par rapport à l'émergence de controverses politiques européennes, transnationales, c'est-à-dire pas seulement quelque chose qui...
Vous trouvez qu'il n'y a pas eu de controverses au niveau européen ces dernières années entre la crise des migrants,
la crise des dettes publiques? Je pense qu'elles ont largement pris la forme de controverses entre pays. Elles ont largement pris la forme de la France contre l'Allemagne, des Grecs contre les Allemands. Et donc, elles ont dérivé progressivement dans une série de stéréotypes sur les Allemands sérieux, les Grecs dispendieux, les Espagnols paresseux, je ne sais quoi d'autre. Et effectivement, ce qui apparaît du coup dans cette espèce de jeu intergouvernemental, c'est peut-être le besoin de politique transnationale, quelque chose qui ne soit pas seulement du face-à-face des gouvernements.
Bruno Cotterêts.
Oui, c'est clair qu'on est là au cœur du débat. Cette question de grande controverse transnationale, on sait depuis de nombreuses années que c'est une des solutions, ou en tout cas une des propositions, pour sortir de ce qu'on appelle le déficit démocratique européen, c'est-à-dire le sentiment qu'ont les peuples de ne pas être concernés ou de ne pas être suffisamment entendus et écoutés à propos de l'intégration européenne, à propos de la direction de l'Europe. Et le paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron se veut le porteur de ça lorsqu'il proposait, par exemple, ce que le Parlement européen a finalement refusé, qui était d'avoir des listes transnationales aux élections européennes. C'était bien ça le but du jeu, qui était d'essayer de créer un espace public européen avec de grandes controverses dépassant les frontières nationales. Alors, cette question est une question qui est très, très, très compliquée. Emmanuel Macron, lorsqu'il propose aux Français de rebattre les cartes du jeu politique français autour du clivage entre les progressistes et les nationalistes ou les conservateurs, c'est de ça dont il est question. Il a fait sienne la théorie qui est celle de l'absorption du clivage gauche-droite à l'intérieur du clivage entre pro et anti-européens. La grande difficulté de tout ceci, c'est que, comme disait un certain révolutionnaire russe, les faits sont têtus. Quand on regarde les données empiriques, les données d'enquête, on voit que ce clivage entre les progressistes et les nationalistes existe bien dans la vie politique française. C'est un clivage qui a peut-être même pris en intensité, mais il a pris en intensité parce que, justement, il concerne des segments de plus en plus étroits de l'électorat en France et peut-être même en Europe. Ceux qui sont clairement des fédéralistes ou ceux qui sont clairement des souverainistes sont devenus des partis assez réduites. Au fond, au centre du jeu aujourd'hui, la question, c'est surtout l'Europe au profit de qui, pour faire quelle politique publique. Donc c'est effectivement cette question de la politisation, mais qui n'est pas aussi peut-être schématique que ce qu'Emmanuel Macron propose. Il y a peut-être à l'intérieur de ceux qui veulent plus d'Europe, des éléments de controverse aujourd'hui qui sont effectivement l'Europe au profit de qui ? L'Europe des travailleurs, l'Europe des citoyens, une Europe de citoyenneté ou une Europe des entrepreneurs, un grand marché économique. On veut dire qu'on est tout ça à la fois en France, mais au fond, à vouloir être tout ça à la fois, à la fin, on n'est plus tellement, on ne sait plus très bien quelle est la grande direction.
Antoine Vaucher, Bruno Cotterêts a raison de rappeler qu'en tout cas, c'était la tactique il y a quelques mois d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de construire ce clivage entre progressistes d'un côté et souverainistes de l'autre, avec cette ambition de faire exploser le paysage politique européen exactement comme il l'avait fait en France, en faisant exploser, en tout cas, en affaiblissant considérablement le Parti républicain et le Parti socialiste et en exaltant son opposition avec Marine Le Pen. Il aurait voulu faire la même chose avec l'Europe. D'ailleurs, il a commencé à le faire en se plaçant en rempart, en se plaçant en ennemi des souverainistes, en ciblant assez directement Orban, le Premier ministre hongrois, ou alors Salvini. Est-ce que cette tactique politique est toujours d'actualité pour Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il peut réitérer l'exploit du chamboule-tout et de l'explosion quasiment du paysage politique au sein du Parlement européen ?
Il me semble que effectivement c'est ce qui a été un petit peu l'idée, je pense, de encore une fois d'Emmanuel Macron et de La République en Marche, c'est-à-dire de tenter de poursuivre au niveau du Parlement européen ce qui était tenté au niveau national, en constituant en perturbant en quelque sorte la co-gestion du Parlement européen par les socialistes et les conservateurs, de la même manière qu'il avait tenté de perturber au niveau national le jeu des alternances socialistes UMP ou républicains.
Est-ce que ça peut marcher?
Bon, ça n'a pas marché. On peut d'ores et déjà dire que ça n'a pas marché.
L'élection n'est pas jouée encore.
Non, je ne parle pas du score que fera la liste République en Marche. Je parle plutôt de ces listes transnationales qui, plus exactement, de ces partis politiques européens autour desquels vont se structurer les élections européennes. Mmh. C'est-à-dire que on sait bien que les élections européennes, c'est d'abord des élections nationales. Ça va se passer dans chacun des pays membres de l'Union européenne. Mais d'une certaine manière, chacun des partis en présence met un point d'honneur à appartenir à des grands partis européens. Donc c'est le parti socialiste, enfin sociodémocrate, les partis populaires pour les conservateurs. Et puis il y a les libéraux. Et finalement, cette espèce de proposition centriste, pan-européenne que voulait faire Macron, elle a fini par déboucher par une alliance dans ce petit parti des libéraux avec lesquels il fera sans doute campagne. Enfin, c'est ce qui apparaît à ce jour.
C'est ce qui apparaît aujourd'hui. Les alliés au niveau européen d'Emmanuel Macron, de La République En Marche, ne sont pas les conservateurs, ce sont les libéraux.
C'est ça.
Peut-être les verts aussi.
Pour l'instant, ceux avec lesquels, en tout cas, il est question de faire campagne, c'est avec Verhofstadt. Et d'une certaine manière, il me semble que, enfin voilà, c'est pour revenir à ce que je disais au début sur le fait que l'Europe est un peu ce qui donne la consistance idéologique
au macronisme,
c'est aussi justement ce ni gauche ni droite que voudrait incarner Macron, que la question européenne, qu'il cherche à incarner à travers la question européenne. Bon, voilà. Il se trouve qu'au Parlement européen, c'est sans doute le centre-droit qui est la seule, en quelque sorte, voie d'accueil, en quelque sorte, pour ce projet.
Oui, peut-être que du côté du Parlement européen, Bruno Cotterêts, justement, on ne se reconnaît pas dans ce clivage progressiste versus souverainiste.
C'est compliqué parce que, à la fois, il y a effectivement ce clivage qui existe, mais lorsqu'on regarde les votes des députés au Parlement européen, on avait au contraire vu depuis plusieurs années que la dimension gauche-droite aussi existait dans l'activité routinière et quotidienne du Parlement européen. Donc, encore une fois, on ne peut pas résumer ni les électeurs, ni les élus à cette simple dimension de pro ou anti-européen. Et c'est en ça qu'Emmanuel Macron essaye quelque chose qui est effectivement un pari politique audacieux, mais très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'à l'intérieur des différents pays membres de l'Union européenne, les vies politiques nationales n'ont nullement été réorganisées par ce clivage. Donc vouloir faire de ce clivage le seul horizon politique en Europe, c'est aussi prendre le risque d'accroître le sentiment par de nombreux citoyens que les élections européennes ou le jeu politique européen est assez déconnecté du jeu politique national. Donc c'est effectivement une configuration extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il y a non seulement les inerties partisanes de la sphère politique européenne, du Parlement européen, et effectivement de ce jeu bien installé entre les sociodémocrates et les libéraux conservateurs, on va dire, qui est déjà quelque chose qui est très résistant à l'intérieur du Parlement européen, mais il y a cette grande difficulté qui est de faire exister ça dans les urnes le jour des élections européennes. Or, il se trouve que dans les urnes, le jour des élections européennes, il y aura bien d'autres choses.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y aura dans les urnes et est-ce qu'il y aura peut-être des bulletins de gilets jaunes? Parce que depuis quelques semaines, Bruno Cotterêts, cette hypothèse avance, l'hypothèse d'une liste gilets jaunes aux européennes. Il y a un récent sondage au Doxa qui mesurait justement cette possible liste gilets jaunes à 8% d'intention de vote. Pour les autres formations, on a le Rassemblement national qui est en tête avec des intentions de vote qui tournent autour de 24% si je m'en réfère à un récent sondage IFOP. La République En Marche qui est créditée là aussi à peu près de 18%, alors que les autres forces sont assez loin derrière, les Républicains 12% et la France Insoumise 10%. Jusqu'où, Bruno Cotterêts, pensez-vous que ce mouvement des Gilets jaunes pourrait redistribuer les cartes dans les prochaines élections européennes? Et est-ce qu'on peut raisonnablement affirmer que dans l'hypothèse où effectivement il y aurait une liste Gilets jaunes en mai prochain, c'est le parti présidentiel qui en tirerait bénéfice, Bruno Cotterêts?
Premier point de méthode, il faut toujours rappeler à nos auditeurs que les intentions de vote mesurées plusieurs mois avant les élections, et notamment dans des scénarios où le phénomène n'existe pas, c'est-à-dire pour le moment on ne sait pas ce que serait une liste gilet jaune, doivent être regardés avec beaucoup beaucoup de prudence. Même si on ne considérait ses intentions de vote que comme un seul indicateur d'humeur de l'opinion.
Une fois la prudence mise de côté.
Une fois la prudence mise de côté, le grand problème d'une liste gilet jaune aux élections européennes, c'est pour quel discours sur l'Europe ? C'est-à-dire qu'on voit bien de quoi vont-ils parler en ce qui concerne le malaise démocratique et socio-économique français, mais quelle est la position des Gilets jaunes ou de leur porte-parole sur la question de l'Europe ? Pour le moment, ce qui apparaît quand on les entend parler d'Europe, c'est d'abord qu'il n'y a pas forcément la même tonalité. Il ne serait pas étonnant que le mouvement des Gilets jaunes soit lui-même traversé de différences sur l'Europe. L'Europe a une formidable capacité à faire apparaître des divisions politiques. Donc, quelle est l'Europe dont parlent les Gilets jaunes ? Lorsqu'on les écoute, on voit aussi qu'il y a quand même une dimension assez, une tonalité assez critique sur l'Europe. Mais une fois qu'on a dit ça, on a toujours rien dit. Quelle critique sur l'Europe ? Est-ce que ça va être la critique que l'Europe, c'est pas assez démocratique ? Est-ce que c'est la critique que l'Europe, c'est pas assez sociale ? Ou est-ce que c'est la critique que l'Europe, c'est une passoire qui protège mal les frontières ?
Probablement tout ce que vous venez de dire.
Voilà. Donc c'est ça la question centrale. Et le jour où on se présente devant les électeurs, il faut quand même avoir un discours à tenir sur la question européenne.
Mais là, ce que vous remettez en cause, Bruno Cotterêts, c'est la cohérence, finalement, de cette liste et la cohérence du point de vue des idées.
C'est l'avant.
Mais peut-être que cohérence, il n'y aura pas. Sauf que peut-être que liste, il y aura quand même.
Voilà, alors on ne sait pas. Le processus de politisation à travers le fait de se présenter aux élections est toujours intéressant. Il oblige les acteurs à clarifier leur message, justement, à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Mais pour moi, c'est ça le point central. S'il devait se présenter aux élections européennes, ça aura évidemment des effets sur les intentions de vote ou les votes réalisés pour les autres formations politiques.
Antoine Vauchez, sur cette hypothèse d'une liste pour les élections européennes des Gilets jaunes, et je reviens sur ma question initiale, si vous permettez, si vous pouviez la traiter, est-ce que ça pourrait bénéficier au parti présidentiel ? Parce que, visiblement, du côté de l'Élysée, c'est quelque chose qui est en train de germer. Certains se frottent les mains du côté de l'Élysée en disant « on va pouvoir tirer bénéfice de tout ça ».
J'aurais peut-être plus de mal à répondre sur cette dernière question, mais sur la première, effectivement, la question européenne, l'Europe n'est pas apparue à première vue, je dirais, comme très présente dans les discours qu'on a entendus des Gilets jaunes. Il me semble que la question européenne, c'est pas à Bruxelles, ou à Francfort que les manifestations se sont déplacées. La présence de l'Europe dans les discours politiques des Gilets jaunes était relativement secondaire. On a entendu parler de Frexit ici et là, mais c'était relativement secondaire. En revanche, ce qui est assez clair, c'est que si on retient certaines des revendications clés, je pense à la question des services publics et de l'investissement public, si je pense à la question de la justice fiscale, il y a là chaque fois des questions dont une partie, je dirais, des boîtes noires, enfin une partie des enjeux se situe au niveau européen. C'est-à-dire que la question des services publics, la question de l'investissement public, aujourd'hui, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au cadre contraint, au cadre budgétaire contraint dans lequel évoluent les gouvernements européens. Pas seulement le gouvernement français, on peut penser ici au cas italien d'une manière relativement similaire. De la même manière, la question de la justice fiscale, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie d'abord à une certaine façon de faire ou de ne pas faire justement la construction européenne, c'est-à-dire une forme de concurrence fiscale entre les États qui les contraint là aussi considérablement d'un point de vue budgétaire et qui contribue aussi à une forme d'injustice fiscale parce que ceux qui bénéficient le plus aujourd'hui du grand marché, de l'intégration économique européenne, finalement, ont trouvé, dans une certaine mesure, les moyens de contourner, le poids de la fiscalité. Donc, finalement, il y a à chaque fois, au cœur des revendications, il me semble, des Gilets jaunes, la question européenne. La question ensuite est de savoir dans quelle mesure il y aura des offres politiques qui permettront de construire ce lien entre ces revendications et les élections européennes.
Deux questions en une, Bruno Cotterêts. Quels seront les enjeux de la campagne européenne et est-ce que véritablement, au cœur de ces enjeux, seront véritablement des questions européennes ?
Le président de la République, dans ses vœux, a dit aux Français qu'il allait leur faire des propositions sur la question de l'Europe. Donc je ne doute pas que les propositions du président de la République vont se retrouver au centre des débats de la campagne des élections européennes. Mais la campagne des élections européennes sera, comme les précédentes, dominée par les questions socio-économiques aussi et les partis politiques.
Donc les questions nationales.
Je suis prudent là-dessus parce qu'on voit aussi dans le discours politique français depuis une vingtaine d'années que les formations politiques, que les candidats aux élections font des espèces de chaînage intellectuel entre les questions nationales et les questions européennes. À gauche, on va expliquer que si on donnait une nouvelle impulsion sociale à l'Europe, on se porterait mieux en France. Donc, c'est pas aussi clair que ça, la séparation aujourd'hui entre les rhétoriques politiques, les discours politiques nationaux et européens. On constate que beaucoup de liens sont faits quand même entre les deux et on voit que la question de l'Europe dans les élections nationales prend une certaine importance et dans les motivations de vote des Français aux élections nationales, présidentielles en particulier, la question de l'Europe joue un rôle qui est important. Elle a joué un rôle important dans l'élection de 2017.
Pour
répondre très brièvement à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que ça bénéficierait ou pas ?
Merci.
Voilà. Il serait présomptueux et je pense imprudent de la part de l'exécutif aujourd'hui de vouloir trop vite penser tirer un bénéfice d'une éventuelle liste gilets jaunes. On a vu que pour le moment, dans les enquêtes d'opinion, ça n'empêche pas le Rassemblement national d'être en tête. Ça en dit long sur ce que le Rassemblement national en dynamique possible sur les élections européennes.
Certes,
ça en
la
dit
France
long,
insoumise,
ça en dit long. Voilà, ça en dit long sur l'inquiétude du pouvoir que la liste République en marche Modem ne soit pas 2, mais numéro 3 des élections européennes, ce qui serait un désastre politique européen pour Emmanuel Macron. Mais le fait même que la liste Modem En Marche serait numéro 2 sera déjà quelque chose qui ne sera pas un succès européen pour Emmanuel Macron.
Oui, le Rassemblement National, vous avez raison, pour l'instant, dans les intentions de vote, ils sont en première position. En revanche, la France Insoumise, ça décolle pas beaucoup.
Pour le moment, ça ne décolle pas beaucoup, effectivement.
Antoine Vaucher, sur cette question que je posais de quels seront les enjeux de la campagne européenne et est-ce que véritablement ça sera des enjeux européens ?
C'est une question classique, en quelque sorte, des élections européennes. Dans quelle mesure elles sont des élections européennes? Dans quelle mesure, par le jeu d'une sorte d'esquive des partis qui ont tendance à rejouer en quelque sorte les élections nationales ou rejouer quelque chose comme les élections présidentielles ou les élections d'après qui sont les élections municipales en l'espèce et finalement finir par déthématiser ces élections européennes en élections nationales et c'est vrai que c'est un des risques en quelque sorte de chacune des élections mais ça n'est pas seulement d'ailleurs la question des partis, il me semble que c'est aussi plus généralement la question du débat public, y compris d'ailleurs des médias, c'est-à-dire une difficulté à parler de l'Europe sans immédiatement y accoler des adjectifs comme celui d'ennuyeux, technique, complexe, sans doute trop compliqué pour les citoyens. Et dans la construction de ce débat public, finalement, finir par considérer qu'il vaut mieux ne pas parler tellement d'Europe pendant les élections européennes. Alors, j'en profite parce que c'est aussi du coup le rôle, notamment des universitaires, mais sans doute d'autres organisations comme des ONG, de participer un petit peu à cette discussion-là, d'essayer d'éviter cette ligne de pente des élections européennes qui finissent par devenir autre chose que des élections européennes. Et c'est aussi en ce sens-là qu'avec un groupe d'économistes, de juristes et de politistes, dont Thomas Piketty, on a lancé il y a quelques semaines un manifeste pour la démocratisation de l'Europe qui a pour objectif notamment d'essayer de replacer cette question notamment de l'investissement public, cette question de la justice fiscale à l'échelon européen et du coup de ne pas escamoter en quelque sorte le débat des élections européennes qui s'engagent.
Antoine Vaucher, ce sera ma dernière question, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais on disait, pour commencer cette deuxième partie, que finalement Emmanuel Macron était bien isolé dans cette Europe pour engager cette réforme européenne, mais finalement il pourrait aussi sortir de cet isolement. Qui vous voyez pour finalement soutenir Emmanuel Macron ? Et je vais vous conduire tout de suite là où j'ai envie de vous entendre. Quand on regarde peut-être du côté de l'Italie, on voit que finalement, sur la question de l'immigration, finalement, sur même la question du déficit budgétaire, on n'est pas si éloigné. Emmanuel Macron n'a pas une politique d'accueil des migrants aussi généreuse que ce qu'on pourrait penser. Et d'une certaine manière, on n'est pas si loin des Italiens sur la question budgétaire. C'est un peu la même chose. Donc, on pourrait envisager peut-être une forme de rapprochement à terme entre Paris et Rome sur ces choses-là. Quand on regarde du côté de l'Espagne, là aussi, il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale avec le gouvernement de Pedro Sanchez. Quand on regarde du côté du Portugal avec Antonio Costa, Premier ministre socialiste, c'est peut-être la même chose. Est-ce qu'on pourrait pas voir émerger une forme d'alliance latine pour relancer cette Europe ?
Évidemment, il y a toujours un jeu des négociations, disons, diplomatiques et des opportunités qui peuvent s'ouvrir sous tel ou tel thème. Je veux dire, évidemment, là-dessus, en fonction des politiques publiques européennes, des alliances diplomatiques très différentes peuvent émerger. Je veux dire, aussi bien sur la question des politiques d'immigration, sur la question de la justice fiscale. De ce point de vue-là, il y a toutes sortes de configurations possibles, mais il me semble que, malgré tout, un des enjeux, c'est de sortir quand même de l'immobilisme finalement de la politique européenne de ces dernières années.
Mais pour sortir de l'immobilisme, il faut créer des blocs.
Il faut
créer des rapports de force.
Il faut sans doute créer des blocs, mais il faut aussi ne pas passer à côté des grands débats. Donc effectivement, ne pas passer à côté des grandes questions aujourd'hui qui vont devoir être posées pendant les élections européennes, il me semble, notamment celle de la justice fiscale, notamment celle des politiques d'immigration. Dans lesquels c'est autour de ces questions-là, et pas seulement autour des chefs d'État, pas seulement autour de la figure d'un sauveur ou d'une nouvelle configuration intergouvernementale. Je pense que plutôt autour de ces questions politiques-là que devra se structurer les élections européennes.
Bruno Cotterès, en quelques mots en guise de conclusion sur l'hypothèse que j'avançais d'une alliance latine, est-ce que vous êtes d'accord avec Antoine Boussier en disant finalement c'est pas l'essentiel, c'est pas là que on va pouvoir enclencher cette relance?
La question de du rapport franco-italien est essentiel. Les relations franco-italiennes se sont dégradées. Elles ne sont pas au beau fixe, loin de là, depuis de nombreux mois aujourd'hui. C'est un enjeu tout à fait essentiel. On avait vu qu'au début de son mandat, François Hollande avait essayé de jouer la carte avec Matteo Renzi. Et cette question est toujours très importante pour la France, son rapport à l'Italie. Il y a un enjeu très important, me semble-t-il, de renouer le dialogue et la bonne relation franco-italienne. Mais c'est effectivement pas ça qui va changer. C'est effectivement, comme Antoine le disait, les grandes questions politiques.
Merci beaucoup à l'un et l'autre de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur les enjeux nationaux et européens qui attendent Emmanuel Macron pour cette année 2019. Bruno Cotterès, vous concernant les Européens, aiment-ils toujours l'Europe qui était paru à la Décommémoration française? Merci également à vous Antoine Vaucher. Vous concernant démocratiser l'Europe, c'était au seuil. Il y a évidemment bien d'autres ouvrages, mais enfin en tout cas deux que les auditeurs peuvent noter. Merci beaucoup.